On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Encore un peu de cidre. Manger les tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe savoir la mer.
Ah oui, mais ça me...
Les bulles?
Oui.
Là, c'est beaucoup d'activités de levuriennes hein, qui vont, qui viennent et qui bouffent des sucres.
Ça n'a rien à voir avec le cidre fabriqué au mois d'octobre, mis en bouteille au mois de décembre et vendu au mois de février pour les crêpes, quoi.
On va avoir des cidres singuliers avec une personnalité qui est à la fois celle du producteur et celle du terroir.
Brut ou extra brut, avec un peu d'amertume, ce sont ces signes distinctifs. Mais par ici, depuis toujours, on dit ça autrement.
Franc, net, droit en goût, il est droit, goulayant.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster à la Bolée dans les crêperies, à l'épiphanie autour de la galette des rois. Avec les crêpes pour célébrer la Chandeleur, petit rappel du calendrier d'ailleurs, la Chandeleur c'est samedi prochain, le 2 février, c'est la saison du cidre. Seulement voilà, quel cidre coule dans les verres des Français? À 80% c'est un soda industriel dont on va voir qu'il est peu encadré par la réglementation, et à 20% c'est heureusement une vraie boisson fermentée, un vin de pomme artisanal, parfois même paysan. Tout savoir sur le cidre, cette émission est en partenariat avec le magazine UFC Que Choisir qui consacre au cidre dans son numéro de février. Une enquête ainsi qu'un banc d'essai de 54 cidres dégustés par des experts. Et parmi ces experts, il y a notre Dominique Hutin National. Bonjour Dominique.
Bonjour à tous.
Vous êtes l'un des chroniqueurs historiques dont va déguster, mais également l'un des spécialistes français du cidre. Vous allez nous aider à comprendre un peu plus ce monde cidricole. Vous allez nous conseiller également quelques cuvées à boire les yeux fermés.
Oui, on va voir qu'il n'y a pas que la crêpe dans la vie et qu'on a des cidres d'auteur. Et derrière eux, l'édification d'une culture nouvelle du cidre.
Et bien pour explorer justement cette culture nouvelle du cidre, deux invités en notre compagnie ce matin. Bichincho, Apol, bonjour.
Bonjour.
Oui, ça vient du Pays Basque.
Votre
prénom, formé d'après Meneux, au contraire, vous êtes le bienvenu avec votre beau prénom. Vous menez avec votre compagne Pascal le domaine Bordato à, oulala, attention avec mon accent parisien, Jacsu.
Ouais, Jacsu, c'est parfait.
Comment on dit avec l'accent basque?
On dit Diachou.
Diachou.
C'était pas loin.
Comme ça, s'éternue un peu.
Voilà, c'est ça. C'est dans le Pays Basque, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, à 50 km de Biarritz, à l'intérieur des terres. Une exploitation paysanne, biologique, où vous produisez du cidre depuis 2001, mais également du vin AOC Iroulégui en agriculture biologique. C'est intéressant car on va revoir comment vous êtes devenu plus qu'un cidrier, peut-être bien un vigneron de la pomme. Alexia Falcon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-américaine?
Oui, personne n'est parfait.
Non, tout va bien, oulala, au contraire. Au fourneau depuis 2016, de Pommes. C'est un restaurant très monomaniaque de la pomme. C'est 109 boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris.
Oui.
Vous allez nous cuisiner pas mal de choses. Et dès le début de cette émission d'ailleurs, une formidable recette cuite au cidre. On n'en dit pas plus à nos auditeurs, mais je peux déjà vous assurer que ça sent bon. Il y en a une qui trouve que ça sent très bon d'ailleurs. C'est notre chroniqueuse Elvira Masson. Bonjour Elvira.
Comment ça va? Je suis épuisée. J'ai l'air en forme comme ça, mais je suis épuisée. J'ai passé la nuit devant un écran de télévision. Autant vous dire que c'est au moins une bouteille de cidre extra brut qu'il faut pour me remettre d'équerre.
Non mais attendez, du beach watching, mais au moins pour la bonne cause.
Pour la bonne cause.
Ah.
Avec 8 chefs.
Un projet formidable qu'on va découvrir tout à l'heure et qui passe bientôt à la télévision. Réagissez dans notre émission en direct via l'appli de France Inter ou en nous envoyant un mail. On va déguster à radiofrance.com. Des recettes au cidre, notre sélection de cuvées, toutes les infos relatives à notre émission sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Saluons la naissance, tout d'abord, juste avant d'aborder le cidre, d'une belle initiative qui va dans le sens de la gastronomie durable. Écotable. C'est le nom de baptême d'une nouvelle association dont le slogan est « Bien dans mon assiette ». Bien sur ma planète, cette association a pour vocation de fédérer tous les acteurs de la restauration éco-responsable. Je suis allé faire un tour au lancement de cet organisme à Paris, dont vous aviez aussi entendu parler,
ouais, c'est
Elvira.
C'est formidable, c'est pas un énième label.
C'est pas un énième label, exactement. On va voir qu'ils vont vraiment dans le fond des choses et qu'ils aident les restaurateurs à se convertir vers une agriculture et une restauration plus vertueuse. Ce lancement, ça se passait le lundi 14 janvier. En quoi consiste exactement Écotable? Fanny Giancetto, sa fondatrice, nous en explique le principe au micro dont on va déguster.
Écotab, c'est une communauté de restauration durable. Ça veut dire quoi, une communauté de restauration durable ? C'est qu'on identifie et on accompagne les restaurants qui sont dans une démarche éco-responsable. Et on s'appelle communauté parce qu'on a créé un réseau d'acteurs à côté, éleveurs, agriculteurs, sociétés de recyclage, de compostage, associations de récupération des invendus. Et le but, c'est de créer le lien entre ces restaurateurs et tous ces acteurs pour faciliter la démarche éco-responsable. Donc on a aussi bien des cantines de tous les jours, on a de la street food, donc un petit, par exemple, ressource qui est complètement ouvert sur la rue et qui fait que de la vente à emporter. Et on a des restaurants beaucoup plus gastronomiques, comme Tana, qui fait aujourd'hui une cuisine bistronomique importante. Voilà, le but, c'est d'avoir tout style de restaurant pour que chaque personne puisse choisir ses restaurants suivant un impact environnemental.
Quand des cuisiniers, des restaurateurs à Paris, en région, un peu plus tard, ont envie de s'engager dans une démarche durable, comment peuvent-ils procéder par rapport à Écotable et votre organisation ?
Alors, il suffit d'aller sur le site internet. Il y a le questionnaire d'éligibilité qui est en ligne, donc on peut le remplir. On peut dire si on veut un accompagnement parce qu'on n'est pas encore éligible et qu'on est intéressé par la démarche. Et ensuite, nous, on prend contact avec les restaurateurs et la démarche est lancée. Sachant qu'on est une association, l'adhésion à Écotable, elle se fait à prix libre. Le but, c'est de créer une vraie impulsion pour la restauration, donc c'est ne pas être un coût supplémentaire pour le restaurateur. Mais on fait aussi des prestations de conseil sur mesure et on se finance par nos prestations de conseil sur mesure en fonction des besoins.
Encourageons Écotable qui a bâti un réseau de producteurs et de prestataires qui proposent des solutions concrètes pour que les restaurants mettent plus de végétal à leur menu, gaspillent moins, recyclent plus, fassent des gains d'énergie. L'ambition d'Écotable étant aussi de permettre aux consommateurs français de choisir leur restaurant à partir de critères plus écologiques. Alors pour l'instant, sur le site d'Écotable, il y a seulement une dizaine de tables qui sont estampillées Écotable, mais de nombreux autres restaurants qui sont audités et conseillés en ce moment à Paris et en région vont bientôt rejoindre ce carnet d'adresses. Et puis, au lancement d'Écotable, j'ai fait une jolie découverte culinaire. Oui, car on était aussi un peu là pour bouffer. En jouant les piques assiettes, j'ai goûté une bouchée délicieuse créée par Chloé Charles. On l'aime beaucoup.
Ah, chef formidable.
Ouais, c'est une chef itinérante.
Qui est aussi au Septime et qui maintenant travaille
auprès de Bertrand Grébeau.
Ouais,
qui travaille à son compte. Une des cuisinières qui est d'ailleurs marraine de l'association Écotable.
C'est la reine de l'anti-gaspi.
Absolument.
Elle ne sait pas jeter quoi que ce soit en fait.
Et ben vous allez voir.
Il faut la mettre au cidre.
La preuve avec le truc délicieux que j'ai dégusté. Est-ce que vous voulez savoir de quoi il s'agit?
Alors c'est un œuf mimosa avec une mayonnaise relevée. Et elle est relevée, en fait, par le ver du poireau.
Le ver du poireau. Donc ça, c'est un truc dans le poireau, en général, qu'on jette, qui finit à la poubelle. Et vous, vous le recyclez pour faire une espèce de mayonnaise de couleur verte. Comment on s'y prend ?
Donc, je le coupe grossièrement et je le mets dans mon mixeur avec moitié d'huile de pépins de raisin et d'huile d'olive. Je le mixe fortement. Et ensuite, je le mets à travers une passette. Donc c'est, on va dire, une passoire avec des trous un petit peu plus fins. Et je laisse l'huile s'écouler pour séparer la matière du ver de poireau de l'huile. Et grâce à cette huile, je vais pouvoir monter une mayonnaise. En l'occurrence, là, vu que c'est sur la base d'un œuf mimosa, j'ai choisi d'utiliser les jaunes d'œufs qui sont durs et un petit peu de jaune cru également, pour l'onctuosité. Donc je mélange ces œufs avec de la moutarde, un petit peu de vinaigre, un petit peu de sel, et je monte avec mon huile de ver de poireau pour obtenir ce petit goût d'oignon un petit peu piquant et cette belle couleur verte.
Génial. Et ensuite, donc, on remplit effectivement la cavité de l'œuf dur et puis on saupoudre de jaune dur haché.
Exactement. Et on le mange comme ça, avec les doigts. C'est encore meilleur avec les doigts.
Les œufs mimosa de Chloé Charles avec une mayonnaise verte à base de ver de poireau pour éviter de jeter cette partie du légume.
On adore ça chez nous. Les œufs mimosa sont très à la mode chez nous. On les voit un peu moins en France, mais c'est vrai que c'est très très bon. Et ça se marie très très bien avec du saumon fumé. Et puis justement, nous on en fait avec du vinaigre de cidre.
Ah voilà, je m'y attendais.
Oui, bah oui, nous, cidre.
Où le cidre est-il dans les œufs
mimosa ? On aime la pomme chez nous. Hein.
Et vous avez raison, et c'est très bien. On va voir votre démarche dans un instant. La recette de mimosa à la mayonnaise de poireau à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster. Derrière la vitre de la régie pour cette émission en direct, Laurent Thomas, Théo Gomard qui nous confiait, tiens, qu'il avait troqué la bière contre le cidre.
Ah ben voilà, un néo-converti,
Théo,
ils sont
absolument
de plus en plus nombreux.
Et il a bien raison, Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale.
Et on ne pouvait pas ce matin ne pas écouter cette chanson que nous aimons tant, La recette pour un cake d'amour, composée par Michel Legrand pour le film de Jacques Demy, Peau d'âne, chantée par Anne Germain et interprétée par Catherine Deneuve.
Le savarin aux pommes, le chenonceau aux rangs, le délice à la noix, la galette des rois, non,
la tarte aux abricots, le soufflé au pruneau, le beignet de compote, le biscuit de Charlotte, non. Ah, le cake d'amour, ma robe couleur de soleil.
À déguster spécial cidre en ce dimanche avec un auditeur qui ouvre déjà les hostilités, Elvira.
Oui, ça commence très fort. Claude Michel nous écrit, j'imagine de Bretagne, le seul vrai cidre est le cidre fermier, jusque-là on est d'accord, peu pétillant, brut, légèrement trouble et qui vient de Bretagne, évidemment.
Bichincho, Apol, vous venez du Pays Basque, une petite réaction?
Ouais, je viens du Pays Basque, mais il a presque raison, et il a raison de dire que le cidre breton est excellent, il a raison de le défendre, mais ce qu'il faut défendre avant tout, c'est la diversité. Voilà, il y en a partout, des super cidres comme des super vins, et ce qui est génial, c'est de s'éclater autour des verres et d'une table, en goûtant des choses qui viennent de partout, qui ont à chaque fois leur typicité, leur personnalité.
Vous allez nous le prouver dans un instant avec votre formidable travail paysan, biodynamique, et ça se passe au Pays Basque, où vous faites vraiment un véritable vin de pomme. On va le voir dans un instant. Qu'est-ce que vous opposez à notre breton, notre auditeur breton, Dominique? Peut-être une bouteille qui ne vient pas de Bretagne?
Le fait que je sois né en Normandie, d'abord, et qu'on trinque à sa santé avec un cidre de l'Orléanais. Et oui, voilà.
Incroyable.
Donc, il n'y a pas ni que la galette dans la vie, mais il n'y a pas non plus que la Bretagne et la Normandie. C'est Julien Turel, cuvée champêtre. À vous, Claude. Bonne santé, bonne année à la vôtre.
Il paraîtrait que la France a d'ailleurs le plus beau patrimoine au monde, pour faire un peu les chauvins. Le plus beau patrimoine cidricole au monde en termes de variété de pommes, en termes de surface cultivée, en termes de savoir-faire.
Absolument. Alors, ce sont des choses qui ont été mises en danger et qui le sont encore, d'ailleurs, puisqu'on a eu des grandes campagnes d'arrachage. Il faut savoir que le cidre, il y a eu des âges d'or et puis des périodes de repli. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, on consommait à Paris une bouteille de vin pour 10 bouteilles de cidre. Il faut dire que le phylloxéra, le mildiou, l'oïdium, c'était chargé de rayer le vin de la carte. Et les gens trouvaient ce sens-là. Et plus avant encore, et là madame, monsieur qui est ennuyé par le fait qu'on parle d'alcool le dimanche matin.
Et en même temps, il faut parler du cidre, évidemment. Voilà. Il faut en boire avec modération. On
buvait jusqu'à
14
litres pour les gens qui travaillaient dans les champs, jusqu'à 14 litres, parce que c'était simplement, en termes sanitaires, plus sûr que l'eau.
Les vergers de pommiers au Pays Basque, c'est loin d'être une anecdote, c'est même un patrimoine qui remonte à très très loin, certains disent même avant le Moyen-Âge.
Oui, tout à fait. Il y a une vraie culture de la pomme et du cidre en Pays Basque. C'est très lié à la culture basque. Après, ben voilà, ça a évolué comme partout. C'est vrai que comme disait Dominique, le cidre, c'était dans les campagnes le vin du pauvre. C'était aussi le vin des marins pour les zones côtières. L'histoire des marins basques et des marins bretons, d'ailleurs, se croise autour des tonneaux de cidre et du cidre consommé jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout simplement pour des raisons sanitaires, hein, plutôt que d'amener de l'eau qui croupissait pendant plusieurs mois sur les bateaux, ils amenaient du cidre, une boisson fermentée qui était beaucoup plus saine, donc plus de problèmes de scorbut, tout un tas de choses comme ça. Donc il y a une vraie culture de la pomme dans pas mal de campagnes, au Pays Basque aussi, le Pays Basque étant un petit peu sur les deux versants des Pyrénées, sud et nord, donc il y a quelques petites différences déjà sur le Pays Basque, mais tant mieux, c'est encore de la diversité, c'est génial. Bon, après, le vin s'est démocratisé. Et je me rappelle d'un gars assez âgé qui nous regarde de là-haut depuis, mais qui m'avait dit se rappeler que lui, quand il était petit, les vieux à la maison, ou les hommes à la maison, préféraient boire un mauvais vin qu'un bon cidre. Le cidre, c'était pour boire en travaillant dans les champs. Tout ça, ça a peut-être amené une mauvaise image du cidre, mais il y a des choses tellement extraordinaires dans tous ces vergers qu'il faut absolument retrouver tout ça.
Et vous en êtes une preuve vivante, vous allez nous expliquer votre travail, Bishing Show à Paul, mais c'est vrai que vous faites partie de ceux qui redorer le blason du vrai cidre basque. Allez, pour nous mettre en jambes et peut-être aussi combattre un peu une météo assez pluvieuse et venteuse dans toute la France aujourd'hui, je vous propose de vous réchauffer avec une recette au cidre. Oui, car le cidre est aussi une boisson qui adore passer à la casserole,
adore,
n'est-ce pas?
Oui,
Alexia
oui,
Falcon.
Adore la réduction, adore. Oui, c'est vraiment, c'est en plus rapport qualité-prix. C'est vrai que c'est cuisiné avec le cidre, c'est un bon rapport. Et c'est vrai que c'est assez quand on prend des cidres bruts ou des cidres d'ailleurs un petit peu plus doux, les cuissons sont assez simples à la réduction. Ça donne des, il y a des complexités, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple que même que de cuisiner avec le vin, même s'il y a des complexités et des différences. Nous, on fait les joues de veau depuis 2 ans. Et des fois, j'aimerais bien l'enlever, mais on n'arrive pas à l'enlever de la carte.
Parce que vos clients le réclament. Hein.
Oui, mais je change de garniture. Mais on garde toujours ce joue de veau cuit au cidre. C'est très, très simple. On peut faire à la maison. On colore simplement. On rajoute une garniture, ce qu'on veut, pomme, poireau, oignon, carotte. Et on colore, on met le cidre. Un peu d'ail, on le met dedans, on le laisse tranquille au four. C'est qu'il se cuisine tout seul. Faut pas s'embêter avec. On laisse réduire le jus. Il y a pas à rajouter des jus de veau, des choses un peu. À la maison, on peut faire ça. On laisse ça réduire jusqu'à ce que ça soit nappant. Et puis après, on peut servir avec nous. On sert avec un choucroute de navet.
Oui.
Donc on cuit au cidre au restaurant, mais ça se marie très bien avec une bonne purée ou
absolument.
Très, très facile.
Le cidre dans tous ses états et dans tous les récipients de cuisine. Et je parle de la cuisine de pommes, hein, une table dédiée à la pomme et tous ses dérivés dans le 8e arrondissement de Paris. Commençons par une recette qui va faire envie à tout le monde, j'en suis sûr, qu'on a la chance de déguster sur le plateau dont on va déguster. Elle circule dans nos assiettes, ça sent vraiment très bon. C'est la joue de veau au cidre du Pays de Caux. Voilà. C'est pas si compliqué à faire. Faut juste un peu de patience, un temps de cuisson relativement long pour qu'on soit bien sur l'idée d'une viande confite.
Oui.
Comment on s'y prend?
Oui, mais c'est ça. Il faut laisser très long, 2 heures au four, tranquille, mais il faut juste la coloration pour donner un petit peu de couleur à cette sauce. Mm-hmm. Et après, cette garniture et le cidre, il faut les laisser tout seul à s'activer. Il fait sa petite vie. Et voilà, quand on retire, la viande est fendante et ce cidre, il fait ce qu'il a envie de faire. Et puis, bon, nous, on utilise le Pays de Caux parce que.
Alors, bouteille que vous nous avez aussi apportée, Dominique va expertiser, si vous le voulez bien.
Absolument. Je m'y suis déjà un petit peu employé.
Très bien.
Pour citer les choses, quand même, Pays de Caux, on est dans le 76, Seine-Maritime, Haute-Normandie, ex-Haute-Normandie.
Alors, que vaut-il déjà à l'état brut? Et c'est le cas de le dire, hein, puisqu'il est brut.
On a un site qui est assez clair, avec de fines bulles, et on peut faire le parallèle avec le vin et celui qu'on connaît assez bien, qui est le champagne. La finesse des bulles concourt à la qualité finale de la perception organoleptique, c'est-à-dire le rapport tactile en bouche. Je le sens. On a une expression qui est, c'est un site finalement qui est assez ouvert, Alexia.
Oui.
Qui s'ouvre comme ça, qui s'offre tout de suite. Et puis après, ce qui va nous intéresser, si vous n'êtes pas encore très rompu à la dégustation du cidre, vous pouvez partir sur quelque chose qui est très simple. C'est essayer de reconnaître, un, le sucré, deux, l'acidité, trois, l'amertume, et puis d'arriver à calibrer tout doucement comme ça votre rapport au cidre. Donc je vais le goûter avec cette perspective-là.
Avec plaisir. Est-ce qu'on peut connaître
deux secondes
son prix?
C'est
à peu près. Est-ce qu'il reste dans le commerce un cidre bon marché?
Oui, c'est un cidre moyen, assez bon marché.
Vous connaissez à peu près les prix du cidre. Oui, on se loge dans des registres de 4, 5, 6, c'est 7 ça. Euros, oui. Même si on a amené des cidres un peu plus haut perché. Alors, notre cidre du Pays de Caux, il est conforme à ce qu'on attend, lui. C'est beaucoup la fraîcheur, l'acidité qui le type, plutôt que la sucrosité et l'amertume.
Très bien. C'est ça que j'ai bien aimé dans le jus de veau, justement, parce que ça apporte une belle acidulée, une côté un peu acidulée qui est très, très plaisant.
Alors, justement, on le retrouve, l'acidulée. Dans cette viande.
D'abord, la texture de ces joues de veau est complètement ahurissante. On a des fourchettes, mais on pourrait très bien se contenter d'une cuillère, tellement c'est du beurre.
Les chairs, on peut le dire, sont crémeuses.
Crémeuses
presque un tout petit peu gélatineuses, mais c'est la caractéristique.
En même temps, il reste de la mâche.
Bien sûr, des joues de veau. Quatre grosses joues de veau que l'on fait d'abord colorer dans un sautoir, avec une matière grasse, en l'occurrence du beurre. C'est ça?
Oui, du beurre, oui.
Ensuite, on ajoute les légumes, et là, il s'agit d'oignons, de carottes. On fait revenir tout ça.
Oui.
Et on déglace aussi.
On déglace aussi.
Quelle quantité faut-il pour 4 gros joues de veau, pour 4 personnes?
Un litre.
C'est ça.
Un litre de cidre. Et puis, on laisse ça tranquillement au four. On couvre. Et après, une fois cuite, on peut juste les enlever et puis laisser réduire un petit peu ce cidre, que ça fasse un petit. Ça fait un petit glaçage bien plaisant. Et voilà, on peut utiliser des cidres un peu plus doux. Moi, j'aime beaucoup parce que ça apporte un petit acidulé que j'adore avec le jus de veau. Et puis nous, parce qu'il y a une choucroute aussi de navet, donc je veux pas que ça soit quelque chose de trop doux non plus. On aime ça, on peut bien sûr utiliser le pays de Bray. Moi j'y utilise dans les tatins par exemple, mais je préfère ça pour les choses un peu salées.
On va reparler avec vous des tours de main que vous faites avec du cidre dans votre restaurant. Le cidre à la dérive, c'est le dossier que le nouveau numéro du magazine UFC Que Choisir aborde en partenariat avec notre émission. On va déguster, on y trouve une dégustation de 54 cidres dégustés par 14 experts, dont vous, Dominique Hutin, et une enquête signée de la journaliste Florence Imbert qui jette, on peut bien le dire, un pavé dans le tonneau. Je la cite, « Le monde du cidre est aux mains de deux géants de l'industrie agroalimentaire, Agrial et Val-de-Rance, qui sont sous couvert de statut de coopérative, au contrôle de plus de 80% du marché. Leur marque phare, Loïc Raison, Écusson, Kérizac, Val-de-Rance, sinon les linéaires des grandes surfaces, bien qu'ils affichent le nom cidre sur leur étiquette, la plupart de ces produits n'ont qu'un lointain rapport avec la boisson que l'on buvait jadis au quotidien dans nos campagnes. Et elle énumère ensuite toutes les pratiques et les procédés qui ont véritablement perverti le cidre et qui en ont fait, on peut le dire, un soda industriel. Dominique, quel genre de pratiques?
Alors, ces pratiques, on peut les recenser, forcément elles ne sont pas portées sur la place publique, d'autant qu'un décret nouveau est en gestation qui risquerait même de corser encore les débats. Alors, j'ai une autre ambition que de gâcher votre dimanche matin, je vais en énumérer quelques-unes très rapidement. Utilisation de l'eau pour faire ce qu'on appelle le remillage, c'est-à-dire qu'on va presser les pommes et puis on va remouiller le marc de pommes obtenu pour allonger la sauce, donc on peut rendre presque doubler les rendements de jus par
donc
cette pratique.
On gonfle les volumes.
On gonfle les volumes pour dire les choses triviales. Exactement. On va avoir des mous concentrés qui, pour certains, peuvent être congelés. Un cidre, c'est un produit vivant. Vous pouvez vous poser la question lorsque chez Monsieur Leclerc, Monsieur Carrefour, Monsieur Super U, etc., vous trouvez des cidres constants toute l'année. Il y a un problème. Voilà. Et ce problème, on le connaît par ailleurs. Ils sont pasteurisés, donc j'ai le droit de dire morts, et ils sont gazéifiés.
On les stabilise en quelque sorte, on les uniformise, on les standardise.
Voilà. Donc on peut trouver une vertu à tout ça, comme on trouve une vertu de temps en temps à boire une bière industrielle. Pourquoi pas? Il n'y a pas mort d'homme. Mais on se situe à des années-lumière de ce qu'est réellement le cidre et surtout ce qu'est la pérennité du cidre. Je vais faire juste un tout petit parallèle. On a une génération qui s'appelle les millennials, 18-35 ans. Ces gens-là, ils sont nés avec Internet, ils ont toujours vécu avec Internet. Ils sont dépositaires de valeurs qui dépassent les continents. Et ils sont animés par des valeurs qui sont l'individu, ça va même jusqu'au bien-être animal, enfin, des choses qui sont très très fortes, qui disent manger, c'est faire des choix, c'est dire qui on est, etc. Eh bien, lorsque vous avez des produits tels que ceux qu'on vient de décrire là, comment est-ce que ces produits-là peuvent entrer en phase avec une génération qui fait en sorte d'être toujours en connexion avec ses valeurs et ses choix de consommateurs? Ce sont des univers qui ne pourront pas se croiser. Donc, à un moment, l'industrie va devoir
n'aura pas le choix
à ses pratiques.
La législation qui encadre les cidres industriels est clairement vieillissante et trop laxiste. Vous avez ajouté un procédé qui fait aussi beaucoup polémique dans le milieu. Je me tourne vers Bixing Zhou à Pôle. C'est l'ajout de gaz carbonique, c'est-à-dire cette idée que le cidre ne serait pas une boisson naturellement fermentée, mais une boisson, un jus de pomme ou un nectar de pomme, parfois gonflé à l'eau, auquel on rajoute du gaz carbonique pour en faire finalement une boisson à bulles, un soda.
Ouais. Bah, le problème, c'est que tout ça, ça s'appelle cidre. C'est ça, donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors effectivement, comment, avec un même mot, décrire des choses qui sont vraiment tout à fait contradictoire, bon voilà, c'est compliqué. Alors à nous d'expliquer aux gens, voilà, pourquoi quand ils ouvrent une bouteille d'un cidre fermier, d'un cidre paysan comme ça, ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont l'habitude de trouver en supermarché. L'idée, c'est pas de combattre contre les gros industriels qui font des trucs un peu, peut-être un peu soda, je sais pas, voilà. Ce qui me met plus en colère, c'est quand ce type de production tente à imiter les cidres paysans, voilà, à se faire passer pour. Là, c'est ça commence être un petit peu en vogue, ça c'est un peu compliqué. Mais après, comme on disait tout à l'heure, c'est de faire le choix d'un type de produit, c'est faire un choix de type de production derrière. Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture, qu'est-ce qu'on veut comme vie dans les campagnes, soit on décide de s'enchaîner avec des gros industriels, on n'est peut-être pas complètement maître du jeu. D'un autre côté, le jeu, il peut être un petit peu plus compliqué. Il faut se lever le matin, des fois très très tôt, et se coucher très très tard pour arriver à faire des choses qui nous plaisent en bout de course. Mais c'est un travail de paysan, c'est un travail passionnant. C'est la vie dans les campagnes, c'est des nombreux paysans, c'est une agriculture souvent saine. Alors moi je prends pour le bio, mais voilà, j'ai des bons copains qui sont conventionnels, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de faire vivre les campagnes, de travailler le plus sainement possible. L'histoire du gaz carbonique. Comment on peut parler d'un produit naturel si on lui amène du gaz carbonique alors que le cidre en lui-même, c'est issu de la fermentation. On connaît bien la technique, elle n'est pas toujours facile à maîtriser, mais une refermentation naturelle en bouteille, c'est le respect du terroir, c'est le respect des pommes qu'on s'est un petit peu embêté à faire pousser toute l'année. On parle des sols, on parle du terrain, on parle le travail de paysan tout simplement, quoi.
On va découvrir dans un instant vos fabuleux produits, vos vins de pommes issus d'une exploitation totalement paysanne et issus d'un procédé parfaitement naturel. On va goûter ça, vous les avez préparés ou pas, vos
quilles? Bien sûr.
Ils vont bientôt se déboucher.
Mais
tout ça. Bixing Zhou, je vous propose de faire juste une petite pause cathodique.
On va déguster. Sur France Inter.
Alors l'Argentine, dans ma cuisine, elle vient par toutes petites touches. J'avais besoin de la gourmandise, j'avais besoin de l'acidité. Et donc les kiwis, c'était une évidence, mais il manquait quelque chose. Et c'est là que j'ai mis un peu le citron vert pour relever. Ma mère, elle faisait suivant des plats où on mettait juste un peu de zeste de citron vert. Donc c'est peut-être quelque chose de sentimental.
La voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de...
C'est Mauro.
C'est bien ça, de Mauro Colagreco, chef argentin installé à Menton, au Mirazur, que vous connaissez bien, François-Régis.
Et qui n'a pas volé sa troisième étoile dans le palmarès 2019 du guide Michelin. Bravo le guide Michelin, parce que... C'est certainement l'un des chefs les plus inspirés, les plus inspirants de France.
À la fois lui et Laurent Petit au Clos des Sens, ça a dit, méritaient absolument leur troisième étoile. Donc il est effectivement fraîchement triple étoilé au guide Michelin. J'ai passé la soirée avec lui hier, enfin plutôt devant mon écran de télévision. J'aurais aimé le voir en vrai, mais en c'était bien, quand même honneur, pas mal. Il fait l'objet d'un épisode de 52 minutes diffusé ce soir sur Planète Plus. Mm-hmm. C'est le deuxième épisode. Le premier est consacré à Taku Sekin, le chef du restaurant Dersou à Paris. Donc ce sont les premiers et deuxièmes épisodes d'une série de 8 épisodes consacrés à 8 chefs étrangers installés en France. Alors le point de départ, c'est le constat que depuis quelques années, depuis pas mal d'années maintenant, la cuisine française s'enrichit sous l'impulsion de chefs venus de partout dans le monde. Ils sont nés en Argentine, comme Mauro, en Afrique du Sud, au Brésil, aux Philippines, en Italie, au Mexique, au Japon. Ils ont appris leur métier chez eux, un peu, mais surtout en France. Et c'est là qu'ils ont choisi d'ouvrir leur restaurant, par amour de la France. Ces 8 films s'intéressent à leur parcours, en détail, à la pratique de leur métier. On les voit se lever le matin, on les voit écosser des petits pois, on les voit aller au marché. On les
avec
voit
des images poignantes, superbes, une réalisation d'une grande, grande qualité.
Ah oui, oui. On les voit échanger avec leurs équipes, se préparer, expliquer leur amour du métier, les difficultés, pourquoi la France, pourquoi le fait de ne pas être né ici est une force, leur apporte quelque chose de différent, pourquoi ça n'a pas toujours été simple de se définir, de dire qui suis-je, est-ce que je suis un chef argentin en France. Et ça m'intéresserait également d'avoir votre point de vue, Alexia.
Oui. Et oui, bien sûr.
Ouais. Mauro, lui, c'était son rêve absolu de cuisiner en France. C'était vraiment son but. Il dit « Le terroir, mes racines et mes voyages, aujourd'hui, forment un tout, mais ça a pris du temps. J'avais peur d'être considéré comme le chef argentin qui fait la cuisine argentine. » On les voit aussi donc, dans les lieux qui les ont inspirés. On voit Mauro Colagreco au marché de Vintimille, à un déjeuner de famille du côté de Buenos Aires avec ses parents. Avec Alessandra Montagne, qui est cette chef formidable de Tempero dans le 13e. On la voit partager.
Chef brésilienne.
Ouais. On la voit partager une feijoada avec ses amis à Rio. Ça, ce sera le dernier épisode de la série qui sera diffusé le 17 février. Mm-hmm. Ne le manquez pas, c'est une merveille. C'est tellement émouvant.
Vous m'avez confié que vous avez versé votre larme. En regardant
notamment Alessandra Montagne et Mauro Colagreco et Taku Sekin aussi, j'étais effectivement très, très émue. C'est peu de dire que j'étais assez soufflée par cette série. Je pensais qu'après la série américaine Chef's Table qui a été diffusée sur Netflix, mm-hmm. on pouvait difficilement faire mieux en termes de compréhension du métier, de gestes de la main, etc. Et en fait, je crois que c'est fait avec cette série écrite par Camille Labro,
oui,
que nous connaissons bien.
Notre consoeur qui travaille notamment à M Le Monde.
Exactement, que nous avions reçu ici aux côtés d'Alice Waters, écrite par elle, donc, et Stéphane Carrel et Antoine Coursat, réalisée par Stéphane Carrel et Antoine Coursat. Je les cite tous, non seulement parce que c'est très bien écrit, vous savez parfois comment c'est les films sur les chefs, il y a un peu de bavardage, il y a un peu de remplissage, de phrases qui ne servent pas à grand chose, mais là tout est utile, tout est juste et la réalisation est magnifique. Alors vraiment, même si vous n'aimez pas la cuisine, j'en doute parce que sinon vous n'êtes pas en train de nous écouter, même si vous en avez soupé des chefs, des livres de chefs, des classements de chefs, des chefs à la télé, là vraiment ça apporte quelque chose, c'est filmé comme des films de cinéma, ça raconte une passion dévorante, un travail acharné, ça raconte aussi la cuisine comme manifeste pour les échanges, les produits de quelque part, les techniques d'ailleurs, et pour finir, quel bel hommage rendu à la France. Mesurons la chance que nous avons de vivre dans un pays qui suscite tant de désirs chez tous ses cuisiniers.
Absolument, merci beaucoup. Vous nous rappelez juste Planète Plus et la série.
Diffusée sur Planète Plus à partir de ce soir, 20h55, Taku Sekin et à 21h55, Mauro Colagreco.
C'est ça, toutes les informations, oui. Les créneaux de diffusion sur franceinter.fr à la page. On va déguster Alexia Falcon, d'origine américaine, cuisinière à Paris. Pourquoi la France ?
Bah, ma mère est française.
Déjà. Ah, c'est déjà une bonne raison.
C'est déjà ça. Mais bon, je suis venue en France. En fait, c'est la sommellerie qui m'a attirée. En fait, je me suis un peu trompée, je pense, parce que aux États-Unis, on mélange un peu tout. Et en France, c'est bien, c'est pareil, sommellerie, cuisine, pâtisserie. Et j'ai suivi ce parcours. Et bon, toujours, j'adore le vin. Donc, du coup, je suis amenée à adorer le cidre maintenant. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand on est étranger, quand on vient, Daniel avait un chef japonais avant et je lui disais, oui, vous essayez de mettre tout en chips. Ah ben moi, j'essaie de tout fumer. Je fume tout. Est-ce que je peux fumer ça? Je peux fumer ça? Est-ce que ça se fume? Ça se fume. Et les bois, mais c'est vrai qu'on a des choses différentes quand on vient d'un pays différent, mais on rapporte toujours avec la cuisine française et on aime la France tous, oui. Oui,
et vous allez à nouveau nous le montrer dans un instant avec de très belles recettes cidrées, mais on va enfin découvrir les vins de pommes de Bixinchio à Pôle, plus quelques autres cuvées sélectionnées par notre chroniqueur Dominique Hutin. Je vous propose Loudoyon avec Burn, c'est un choix de Chewbacca.
Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. Child again, back
back on my tiptoes. Oh, watch me shoot by my own will. I'm here for the fun. No matter where I start, I know very well where the sun is. But when I'm up close, it's too late to turn back. Just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. It's too late to turn back. Oh, just like the book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn.
Vous êtes bien sur France Inter, on est le dimanche 27 janvier, il est 11h39 à l'horloge de notre studio et le cidre se fait mousser sur le plateau dont on va déguster. Mais alors pas seulement du cidre breton, pas seulement du cidre normand, mais également du cidre du Pays Basque grâce à notre invité Bixinchó. À Paul, vous nous avez versé dans nos verres à pied, car le cidre on le boit dans un verre à pied, on est d'accord, ou on le boit dans un gobelet?
Oui, non, dans un verre à pied.
Ou dans un bol en grès, comme dans les crêperies.
En cas d'urgence peut-être, mais
non, il faut être beaucoup
chouette.
Plus raide et dur que ça.
Non, verre
pas,
à pied.
Non, pas de bolet, vous la prenez, vous la faites tomber voilà. Par terre.
Verre à pied.
Non, le buvant, l'épaisseur, enfin tout dessert la bolet, le verre à
bien
pied.
Sûr.
Qu'avons-nous dans nos verres? Moi, je peux déjà parler d'un très bel élixir à la robe jaune pâle avec des reflets dorés, une mousse qu'on sent d'une finesse incroyable, et d'ailleurs elle tapisse, elle rend la bouche crémeuse. De quelle cuvée s'agit-il, Bixinchó?
Merci beaucoup. Bachadian 2017, voilà. Bachadian, ça veut dire l'homme sauvage, c'est un personnage de mythologie basque, je vais vous la faire très courte.
C'était juste pour
parce que finalement, déterminer les cidres ou les cuvées comme cidre brut, demi-sec ou doux, c'est d'un totalement barbant, et en plus ça nous ferme les portes à beaucoup de choses. Donc nous on avait préféré mettre des noms de cuvées qui expriment un petit peu ce qu'il y a dans la bouteille. Bachadian, l'homme sauvage, lui il fait toujours très peur dans les histoires, il est énorme, il vient de la montagne, il est poilu, s'il descend c'est pour manger les enfants, sauf qu'il est pas bien malin, il suffit de lui laisser une bonne assiette avec un bon petit verre à côté, il est tellement
de
content
cidre,
qu'il nous
de préférence.
Fait, bien sûr, voilà, ou du Roulégui.
Oui c'est ça, du Roulégui, puisque vous êtes producteur également du Roulégui, ouais. Le fameux vin du Pays Basque.
Ouais. Mais en fait voilà, mais l'idée c'est un peu ça, c'est que cette cuvée-là, elle parle de sa terre, elle est, cette petite bulle fine-là, elle est bien, elle complète, mais toute l'aromatique, elle est déjà dans les fruits au départ.
Ça mais d'où elle tire justement cette note? Parce qu'on sent très clairement, Dominique, qu'on n'est pas, il n'y a pas les marqueurs habituels des cidres auxquels on est habitué. Vous parliez, Alexia Falcon, d'une fraîcheur très citronnée, très agrumée, on est sur
mais
une verticalité,
rêche,
une fraîcheur,
et pas
du tout râpeuse, pas d'astringence, beaucoup de finesse.
Vous avez le droit de parler d'amertume, même si elle est totalement équilibrée par le reste. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de cidre, ce que l'on oublie souvent, c'est que c'est par essence un produit d'assemblage. C'est-à-dire que les pommiers étaient mélangés historiquement, et donc on avait des pommes avec plutôt une identité acide, d'autres plus douces, d'autres amères, et on charge, j'allais dire au vigneron. Mais enfin, ce lapsus, il est le parallèle est constant et entier entre vin et cidre, mais charge au cidrier d'agencer tout ce petit monde-là pour arriver à faire quelque chose de posé. Et c'est là le talent de Bixinchó qui fait du cidre comme il pense son vin.
C'est
exactement la même chose. Et d'ailleurs, il a commencé par donner le millésime. Et n'oubliez que le cidre, oui, c'était un travail météo-dépendant, comme l'est celui du vigneron de grandes années.
Vous êtes en train de dire que vous millésimez vos cidres.
Oui, mais Pour nous, la question ne se pose même pas. Déjà pour des raisons techniques, c'est-à-dire que les pommiers, c'est un petit peu capricieux. Ça alterne. Une année, ça produit beaucoup. L'autre année, ça produit moins ou presque pas. On peut niveler ça suivant les variétés, suivant le travail qu'on fait au verger. Mais l'effet millésime, il est presque prépondérant. Donc, de millésimer la bouteille, c'est normal. Ça, la question ne se pose même pas. Et après, c'est ce qui rend le truc chouette, parce que on se casse la tête après dans le chai. En fait, ce qu'on fait, on a le gros un problème qui est à la fois une grande richesse, une grande chance, c'est que chez nous, comme on disait tout à l'heure, la science du cidre, le savoir du cidre, il a été oublié. À nous de le redécouvrir. Pour le redécouvrir, quand on a démarré, nous on s'est dit bon voilà, on part d'une page totalement blanche, on n'y connaissait rien non plus au cidre. On venait
vous
du
aviez des voisins certainement, des paysans qui avaient appris aussi ouais, à mais faire du cidre en fait, avant vous.
Ouais, il y avait quelques
traditions assez oubliées.
Complètement. Ce qui restait surtout, c'était les pommiers. Et ça, c'était une chance. Par contre, il fallait redécouvrir ce qu'on pouvait faire avec. Mm-hmm. Alors il y a deux choses. D'abord, l'aspect agronomique. On voulait travailler en bio, en biodynamie. Bon voilà, donc puiser dans le patrimoine végétal local, dans les variétés locales, c'est déjà 80% des problèmes qui sont résolus. Ça tombe pas malade, on n'a pas besoin de traiter. La pomme étant réputée pour être un fruit ultra traité en phytosanitaire. Hein.
Mais alors attendez, là, vous avez planté ou vous avez récupéré des vergers déjà existants avec des variétés plus ou moins endémiques, parfaitement adaptées à leur biotope?
Ben voilà, on a fait les deux, c'est-à-dire qu'on a commencé à récolter ce qu'on trouvait un petit peu sous les pommiers dans les environs directs, et puis en s'écartant un petit peu, tout sur le Pays Basque, en essayant d'identifier un petit peu. Quand on trouvait une variété qui était intéressante, pas seulement sur le plan agronomique, c'est-à-dire l'arbre qui pousse bien, qui mûrit bien, tout ça, mais aussi dans le chai, là on se dit tiens, mais lui on va en prendre un greffon. On greffe, voilà, on attend 2 ans, le temps de faire la sélection, le temps que ça soit un jeune pommier prêt à être planté, puis on le plante. Et là on attend 7 à 10 ans avant que ça produise. Donc pendant tout ce laps de temps, on continue à ramasser chez les gens comme ça. On va des fois dans des poulaillers, des fois dans des pourtours de ferme, d'autres fois dans des vergers un petit peu plus constitués qui avaient été plantés dans les années 90, voilà, par des passionnés de la pomme. Que je remercie.
Donc ce patrimoine existe encore, mais il était quand même plus ou moins à l'abandon. C'est-à-dire que vous avez ramassé dans des exploitations.
Vous avez chiné en quelque sorte, vous chinez des pommes à droite à gauche.
Oui, c'est ça. Et après, notre boulot, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe avec tout ça et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et là, c'est le parallèle avec notre métier de vigneron, c'est qu'on les travaille séparément, pour un petit peu les cuisiner, entre guillemets, pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. Alors, au départ, c'est variété par variété, sachant que les récoltes commencent vers la mi-septembre, on finit quasiment à Noël. Bon, des années comme celle-ci, un petit peu plus tôt, mais ça, justement, le millésime, c'est important. Voilà, on a un panel de variétés assez grand, on a presque une trentaine de variétés qu'on peut regrouper en 10 familles, voilà, si on veut se simplifier les choses. Mais...
Sauf que vous m'avez dit que c'est quand même, quand j'ai osé vous poser la question, combien de variétés, etc., là, vous avez mis à peu près une demi-heure à me répondre, voilà, en expliquant que les variétés de pommes, c'était quelque chose de, c'était encore une espèce de terra incognita que vous étiez en train d'explorer.
Oui, je vous explique en une phrase, c'est simple. Quand on a récupéré tous ces greffons un petit peu partout, rien qu'au village, on avait identifié 25 arbres, donc supposé 25 variétés différentes, dans des coins différents, des sols différents. Bon, on les replante tous derrière la maison pour se faire une collection de ce qu'on a trouvé à Jacques-Su.
Et puis éventuellement pour les montrer aux visiteurs.
Et voilà, il faut frimer un peu.
Ils viennent acheter du cidre, regarder mes différentes variétés. Puis... Là, vous avez une mauvaise surprise, entre guillemets.
Ben, non, finalement, on fait avec. Mais on n'avait pas 25 variétés, on en a 8 ou 10 maxi, parce que sur un même sol, finalement, des variétés qui avaient l'air différentes sur des sols différents s'expriment de la même manière sur le même sol.
Et c'est une de terroir qui est familière aux amateurs de vin. Et en fait, vraiment, on a une culture, il y a l'édification d'une culture nouvelle, elle était en friche, les mots étaient perdus, les variétés ont été perdues, il a fallu de ces personnes, de ces bordateaux qui se lèvent, qui entretiennent tout ça. Et c'est quand même amusant de parler de cidre aujourd'hui, autrement qu'avec l'accent normand, autrement qu'avec l'accent breton. Ça nous permet,
et c'est
pardon,
un mec
de...
du Cotentin qui nous dit ça.
Mais oui, mais
et
bien sûr.
Œuvré, et qui a œuvré, il le dit pas parce qu'il est modeste, mais qui a beaucoup œuvré évidemment pour l'obtention de l'appellation d'origine protégée pour le site du Cotentin.
Mais je suis très heureux d'arriver à vous parler de ça sans faire un détour par le Cotentin. Et d'ailleurs, le talent aussi de ce papier de Que choisir, 54 cidres, ça a dit toute la diversité, le large spectre de goûts qu'on a pu retrouver. Là, ça a aussi, alors, porter des éclairages un petit peu plus contrariants, si on peut le dire comme ça, sur d'autres choses. Par exemple, la faillite des jeunes marques. Les jeunes marques qu'on voit, qui ont un talent formidable en termes de marketing, qui sont très appétantes. Alors, on peut citer les noms. Happy, Sassy, Fils de Pomme, etc. Ça a été, pour elles, très cruel. Je pense que ces gens-là, aurait dû, avant de faire une école de commerce, faire l'école du goût. Ce sont des gens qui se remettent à des faiseurs à façon, avec des procédés qu'on a listés tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, et c'est un problème. Et on n'a jamais reçu
sur
dans
fond,
une émission...
on peut le préciser, sur une tendance anglo-saxonne, vous la connaissez Elvira, ouais. Qui consiste désormais à faire du cidre la nouvelle boisson tendance, notamment dans les pubs, où elle est servie à la pression, censée remplacer un peu la bière, et c'est vrai que cette jeune génération qui font des start-up à base de cidre quand même plus ou moins industrialisé, ferait bien
absolument.
De commencer par
bien sûr.
Aller
mais
voir
et
comment
c'est
se
leur
passe
talent.
Un vrai cidre artisanal.
Si des jeunes s'assiedent dans sur les terrasses parisiennes avec des bouteilles de cidre, c'est leur talent. Ces jeunes marketeurs formidables, mais il vous manque quand même les valeurs cardinales de ce qu'elle produit. Attachez-vous à ça, et là, toutes les cases seront cochées. Ça, c'est formidable. Mais on n'a jamais reçu, regardez, le nombre, j'ai assez d'emails d'auditeurs pour retapisser une pièce. C'est formidable. Donc, ça interpelle les gens. Et ce qu'a mis en lumière ce papier, c'est que d'abord, on trouve des talents formidables. Le cidre failli du 77, donc cidre d'Île-de-France, 3,50 €. Magnifique. On a des cidres.
Précisons pour ceux qui nous écoutent, Dominique, que toutes les références sont sur notre site internet, hein, vos
cidres. Et sur le site de Que Choisir. Voilà, vous allez retrouver toutes les informations. Et donc, on a tout un déroulé de cidres avec des nuances tout à fait formidables, des process tout à fait formidables. Et n'accusons pas l'industrie d'être tout à fait défaillante par rapport à ça. On a aussi des cidres, par exemple, Le Brun, un cidre artisanal bio. Artisanal, de vous à moi, ça ne veut rien dire, ouais. Ça ne présume pas des pratiques qui sont mises en œuvre. Ça peut tout à fait être gazéifié. L'artisan achète des pommes à l'extérieur. Voilà. Donc, un cidre Le Brun bio, 3,51 €. Donc, on peut tout à fait se faire plaisir. Déjà, avec des prix intéressants. Et puis, on a des artistes. Alors, le célèbre Éric Bordelais, qu'on a déjà évoqué ici pas mal de fois, qui est comme par hasard un ex-sommelier d'Alain Passard. Voilà. Et on s'aperçoit que tous les gens qui ont tiré leur épingle du jeu dans ce dossier bien fouillé, c'est Florence Imbert, la journaliste, qui voulait rendre grâce. Elle a acheté bouteille par bouteille 54 fois. C'est un vrai boulot de fond. Tous les gens qui s'en tirent bien sont inspirés par l'univers du vin. Et le meilleur signe, c'est que la semaine prochaine, à côté de la Dive Bouteille, qui est un salon de vin nature assez connu à Saumur, juste à côté, il y aura un salon de cidre nature.
Et comme par hasard, fruits.
Tour de fruits, c'est exactement, le 3 février à Saumur.
Absolument venir, il y a,
c'est là quand... Vous y serez, Bichincho?
Oui.
Il y a une trentaine de producteurs, je crois, pas seulement français d'ailleurs, mais également du monde entier. C'est, on va dire, l'univers des cidres et notamment des pétnates de fruits, pétnates, qui est pétillant, ce diminutif qui veut dire pétillant naturel.
Ah ouais. Mais en plus, ça se fait naturellement chez un vigneron, comme Isambert, voilà. À côté de Saumur, c'est un petit peu autour de la dynamique de tous ces vins-là, parce que finalement, quand on parle de cidre, on parle de vin, tout simplement. Et quand on veut illustrer la belle diversité des cidres un peu partout, un salon comme ça, ça met en avant le travail des gens autour de la pomme, avec cette diversité incroyable, cette qualité de bouteille incroyable. Et puis voilà, puis le plaisir de faire
juste citer,
une culture saine.
Pour finir d'illustrer ce parallèle, Comme Isambert, ancien vinificateur du mythique Clos Cristal à Saumur, et l'autre personne qui l'organise, c'est Aude Chalon, une femme qui est, elle, sommelière. Voilà, la boucle est bouclée.
Très bien.
Et tout ça commence à déteindre chez les restaurateurs qui ont été un petit peu à la ramasse. On peut citer, tiens, une petite adresse, le Sistrot à Quimper.
Bah tiens, les frères Gire. Nous en parlait, je vais vous le dire.
Voilà. Oui. Elvira.
On a une auditrice qui nous écrit précisément qu'on doit aller au Sistrot à Quimper, qui est une adresse 100% cidre avec une carte fabuleuse.
Par exemple, en janvier 2019, feuilleté de canard fumé maison et compoté d'oignons rouges, poisson du marché, etc.
On va reparler cuisine, dans un instant, mais là, il se passe quelque chose sur le plateau dont on va déguster. Il se passe vraiment quelque chose. Il y a une bombe, véritablement, je pèse mes mots, qui a atterri dans nos verres à pied.
C'est une tarte tatin, oui.
Alors, on fait une petite expérimentation. C'est Bichincho à Paul qui a versé ça. On décrit juste la couleur pour ceux qui sont aveugles, c'est-à-dire tous ceux qui sont derrière leur transistor. On est clairement du côté presque ambré, un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, Alexia Falcon, un petit commentaire.
C'est un côté caramel qui est... c'est vrai qu'on sent le tarte tatin. J'aimerais bien le goûter sur mon tarte tatin. D'ailleurs, j'ai pas fait avec, mais j'aimerais bien essayer de nourrir mes pommes avec ça.
Oh là là. Non, mais c'est presque... Ouais. C'est un encouragement à finir la bouteille, même si... Le site, c'est aussi avec modération.
Bien sûr.
Quelle est à peu près la fourchette de votre taux d'alcool sur vos cuvées, Bichincho?
Oh ben, ça varie suivant les cuvées, suivant les millésimes, mais en gros, ça va aller de 6 degrés à 10 degrés, en gros, voilà.
Et ça, en l'occurrence?
Ça fait 7. Voilà.
Mais c'est quoi? C'est une vendange tardive?
Oui, un peu, oui, voilà.
Cet équilibre avec une acidité formidable.
Ouais. C'est oui, mais l'acidité, il n'y a rien de lourd, il n'y a rien de trop sucré. Ouais. C'est sucré, gourmand, presque bonbon.
C'est caramel, mais acidulé.
Mais le palais reste frais.
Incroyable.
C'est insensé. Bon.
Comment on s'y prend pour faire ça?
J'ai bien fait de venir.
Oui. Il faut préciser d'ailleurs que, c'est ça qui est étonnant, c'est que vous avez utilisé un tire-bouchon comme pour une bouteille de vin.
Oui.
Et vous n'avez pas du tout l'espèce de bouchon avec le muselet comme pour le champagne.
Ouais.
Ça, mais, et pourtant, il y a encore de la bulle.
La bulle, bon, c'est peut-être un petit peu ce qui restait au fond du verre, comme ça. Ah, ça peut prendre
légère effervescence. Très faible pression dans la bouteille.
Oui, très très faible. Ça peut prendre un léger perlé, tout léger, parce que c'est des produits qui sont naturels, qui sont absolument pas stabilisés. Il n'y a pas de soufre non plus. Et pourtant, alors, le parallèle avec le vigneron, tous les vignerons qui nous entendent sauront de quoi je parle. Pour faire un vin moelleux, à un moment donné, on arrête la fermentation. On utilise du soufre. Tout le monde aujourd'hui connaît le sacro-saint soufre, avec ou sans. Et voilà. Ça, c'est un moelleux qui n'a pas besoin de soufre. Pourquoi ? Parce qu'on fait juste confiance aux fruits. Ça, c'est des variétés qui nous ont un petit peu inspiré ce travail-là, d'équilibre entre la sucrosité et l'acidité. C'est des variétés tardives qui ont la grande et belle idée, à un moment donné, de flétrir un peu, de se concentrer, mais elles ont une telle complexité. C'est de l'acidité, enfin, c'est un côté salin, voilà, un petit peu gourmand qui rappelle, enfin, on a envie d'en reprendre.
Ah oui.
Voilà.
C'est une tarte tatin liquide.
Ouais, mais on a un boulot de feignant. C'est-à-dire que c'est la pomme qui fait tout. En fait, ces pommes-là...
Je mets le pied dans la porte. Il est éminemment plus compliqué de faire du cidre que de faire du vin.
Voilà, c'est dit.
N'oublions pas de le dire. C'est un produit très vivant, c'est une matière très très vivante qui est très difficile à domestiquer. Minchin Chou, à vous la parole.
Merci, ouais, voilà. Mais en fait, oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais en fait, il faut faire confiance aussi. En fait, tout le travail se fait sur les parcelles. Voilà, on travaille beaucoup au parcellaire comme ça. Pourquoi ? Parce que les éléments de réflexion, les éléments techniques pour la suite dans le chai, ils viennent d'abord de l'arbre, du sol et de la parcelle. Donc, des variétés comme celle-là, qui à un moment donné... avec le froid, vont flétrir. Elles développent une palette aromatique totalement ouverte. On n'est plus sur la pomme. On est sur des notes de coin, sur des notes de caramel, sur des notes de pomme évoluées, un peu tatinées. Ça, c'est génial. Quand il y a ça, il y a plus qu'à le bichonner dans le chai et ça vient tout seul dans les bouteilles et dans les verres.
Ce serait un peu comme un parallèle à faire avec les cidres de glace.
Oui, c'est un peu ça. Sauf que nous, les cidres de glace, chez nous, bon, mi-novembre, on est encore en short quasiment. Donc, c'est un peu compliqué. Oui. Mais c'est un peu l'idée, effectivement, quand on a goûté des choses qui venait du Canada, de Suède, comme ça, qui était magnifique. On s'est dit, oh là là, il faut absolument qu'on arrive à faire un truc.
C'est ça.
Voilà. Mais tout est dans les pommes.
Bixing Chou, la fourchette de prix pour vos cuvées qui sont vraiment exceptionnelles, presque des cuvées à la fois très gourmandes, mais aussi des vins de méditation. C'est entre combien et combien?
Alors, je fais le parallèle avec l'allusion tout à l'heure au bouchon. Donc, alors on va en gros de 7 euros. La majorité, c'est là, 7, 8, 9 euros. Et puis après, il y a des cuvées un petit peu confidentielles qui vont un petit peu plus haut, jusqu'à 34.
7 euros, c'est le prix de certains. Un vin industriel.
Ouais. Mais après, vous savez, moi, il y a une chose. Alors, voilà, pour terminer, il y a des choses qu'on appelle le cidre et qui souffrent un petit peu de cette image pas chère du cidre, tout ça, contre laquelle il faut se bagarrer un petit peu. Tout ça, on fait des prises de mousse naturelles, comme ça. Ok. Après, ce qui est bouché comme des vins, on les appelle vins de pomme. Pourquoi ? Parce que quand on dit cidre, en France notamment, on a beau dire cidre tranquille, cidre sans bulle, le cerveau, il entend cidre. Quand il entend cidre, il pense bulle. Voilà pourquoi on a contourné le problème en l'appelant vins de pomme, sachant que c'est aussi la traduction littérale de Chagarno en basque, vins de pomme. Mais tout ça, voilà, bon, la diversité, tout ça, ça va tout seul. Et
c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Très, très beau travail. Il nous reste une poignée de minutes pour évoquer quand même quelques tournements aux recettes avec Alexia Falcon, notamment un saumon fumé.
Ah, bah oui, non, moi j'ai fait un saumon mariné, d'ailleurs je vais le passer un petit peu. Mais c'est un saumon mariné au cidre.
Oui.
Donc j'ai fait simplement, comme nous on fait beaucoup de marinades, on parlait de différence de culture. Moi, des Américains, on voit qu'est-ce qu'on peut mariner, fumer. Ouais. Et j'ai fait ce qu'on appelle un brine, donc un saumure, oui. Mm-hmm. C'est une marinade mouillée. Donc j'ai mariné dans du cidre, du sel et de la sucre vergeoise.
Génial, vous avez goûté, Vira ?
C'est un cravelax à l'américaine, un peu.
Oui,
c'est un peu ça. Et j'imagine que le cidre apporte ce côté un peu aigre-doux, non ?
Ah oui, oui, c'est oui. Et puis j'ai mariné 24 heures, j'ai séché. Et puis nous, on fume au bois de pommier. Bien sûr.
Waouh, magnifique.
Donc voilà, ça fait un produit un peu.
C'est magnifique, une subtilité.
Un peu moelleux, oui, oui. Mais nous, c'est toujours le sucre vergeois. Donc c'est vrai que je rends un peu.
Et crème de lentilles aussi dans
la
salle.
La crème de lentilles, très facile à faire à la maison.
Les principes en un mot.
On cuit nos lentilles. Après, on fait revenir dans une petite casserole avec une petite garniture, des pommes, des oignons. Moi, j'adore les oignons rouges, les dés de pommes. On met notre crème, on met un peu de cidre, on laisse réduire tout ça, on rajoute un peu de vinaigre de cidre.
Wow.
Aussi de,
pour la fraîcheur.
Comment ça s'appelle, la vergeoise.
Oui.
Un petit peu de vergeoise,
d'accord,
un peu de vinaigre de cidre et du cidre. On laisse réduire tout ça. On ajoute un poignet de persil et c'est une sauce qui va super bien sur, ça va très vite. C'est bon sur de la volaille, c'est bon sur du poisson.
On va déguster ensemble juste après l'émission. Oui. On arrive au terme, malheureusement, on va déguster. On va déguster ensemble également une tarte tatin arrosée, imbibée.
Ah, le tarte tatin, on fait
avec
aussi
du cidre.
On fait au cidre, on fait un caramel que je déglace au cidre et hop, on cuit les pommes dedans et voilà.
Magnifique. Alexia Falcon, on retrouve tous vos plats parfumés au cidre ainsi qu'une très belle sélection de cidre. Il y en a plus d'une trentaine chez Pommes. C'est 109 boulevard Haussmann, Paris 8e. C'est très recommandable avec à sa tête le patron et passionné vraiment de cidre, Daniel Dayan. La semaine prochaine, on va déguster l'une des stars des agrumes, un magique citrus, l'orange. Vous allez voir, c'est super. Le numéro UFC Que choisir de février consacré au cidre est disponible également en kiosque. Et Big Sim Show à Paul, bravo, toutes les infos sur votre domaine Bordato au Pays Basque sont à retrouver sur notre site. Bon salon la semaine prochaine.
Ouais, merci.
On viendra vous voir de la part dont on va déguster.
Tour de fruits
et
bravo pour votre travail.
Il y a un super truc qui se fait à Pente, s'appelle Pente Doc.
Merci beaucoup et on va déguster, je vous les prolongations, avec une collection de vidéos intitulée Tout un plat, troisième volet, le croissant, une vidéo pur beurre, à retrouver dès aujourd'hui sur le site, l'appli, les réseaux sociaux de France Inter et sur la page On va déguster de franceinter.fr. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.